et bienvenue à Question de savoir, l'émission de l'Allier. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications de l'Allier. Aujourd'hui, on parle de l'achat public et de Néo avec mes trois invités. Serge Bonnet, directeur de l'achat public. Bonjour Serge.
Salut.
Thomas Rodrigue, adjoint de la chaire et bras droit de Serge Bonnet. Bonjour Thomas.
Aussi connu sous le nom de Serge 2.
Exactement. Connu pour ses mimes aussi, la maison Marie-Sirois. Et Justine Paramia, doctorante en sciences pharmaceutiques. Bonjour Justine.
Bonjour et merci de m'avoir invitée.
Ça fait plaisir. Bienvenue à Question de savoir. Messieurs, c'est pas votre premier rodéo. Pour Justine, ça l'est. Donc, on va y aller tout de suite. Justine, tu participes à Néo. Tu es la participante pour pharmacie. Je vais tout de suite commencer par toi. Ça serait quoi le sujet de ton épisode? Puis qu'est-ce que tu as fait un peu comme recherche avant d'en arriver à participer à Néo?
Alors, mon épisode se nomme « Peut-on guérir du diabète ?» Et spoiler alerte, malheureusement, il n'existe pas de pilule miracle, mais on essaye quand même de faire avancer la recherche. Mes recherches avant ma participation à Néo, dans le sens vulgarisation scientifique?
Oui, dans le sens vulgarisation scientifique de ce que tu as fait comme étude avant d'arriver au doctorat en sciences pharmaceutiques. Juste un petit, pour donner une petite idée
donc,
aux auditeurs.
Exactement, oui. OK. Eh bien, il se trouve que moi, je viens de France, du sud de la France, de la belle ville ensoleillée de Montpellier, où j'ai réalisé des études de pharmacie, donc spécialisées en recherche. Et dans le cadre de mes dernières années en fait, de pharmacie, je suis venue faire un stage ici au Québec. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand j'étais en France, j'ai travaillé à l'hôpital avec des patients donc diabétiques et en obésité très sévère, donc qui étaient pris en charge vraiment à l'hôpital pour être candidat à la chirurgie bariatrique, donc une intervention chirurgicale du système digestif qui a pour but en fait de faire perdre du poids et d'améliorer la santé de ces patients. Mmh. Et il se trouve que je me suis rendu compte que la chirurgie pouvait guérir le diabète. Donc, les patients n'avaient plus du tout besoin de prendre de médicaments. Et je me suis demandé comment ce miracle était possible, puisqu'actuellement, il n'y a aucun médicament qui guérit d'un coup de baguette magique le diabète. Et c'est pour ça que je suis venue au Québec, puisque dans le laboratoire du docteur Picard, donc mon équipe actuelle, eh bien, il s'intéressait aux modulations hormonales induites par la chirurgie qui peuvent guérir le diabète. Donc, les hormones, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à une en particulier qui se nomme IGF-BP2 et que vous verrez dans la vidéo que je nomme notre bonne pote parce que je me doute que IGF-BP2 n'est pas très facile à retenir. Donc, voilà, en fait, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo-là de vulgarisation.
Puis, pour nos auditeurs et auditrices, comment se déroule la fabrication, entre guillemets, de l'épisode? Ça serait quoi les étapes? On donne l'exemple d'un étudiant en lettres et sciences humaines ou en théologie et sciences religieuses, ou encore, je suis sûre que j'en oublie un, Serge, notre troisième faculté qui manque des gens.
Ah, ben il y en a plusieurs, mais en fait, celle qu'on est en recrutement, oui, c'est FLSH, théologie, sciences religieuses, et moi aussi, tu vas me piéger, là. Aménagement, architecture, art et design, merci Thomas.
Merci. Donc,
la FAD. Oui, c'est ça, c'est les trois facultés, en fait, pour lesquelles on a lancé le concours une première fois, mais on va le relancer probablement en janvier. Là, on essaie de s'arrimer avec les différentes facultés pour arriver à l'étape. Mais je peux parler rapidement des étapes qui nous mènent à la création de la capsule, puis Justine parlera peut-être de son expérience aussi, de comment elle l'a vécu de son côté. Dans le fond, c'est assez simple. C'est une petite audition d'à peu près 2 minutes là, qui exprime, en gros, parce que tous les épisodes sont divisés en 3 segments, passion, débat et progrès. Donc, passion, évidemment, qu'est-ce qui nous motive à étudier dans ce domaine-là, à choisir ce sujet-là. Débat, c'est quels sont les débats qui ont lieu dans le domaine de recherche. Des fois, c'est des méthodologies différentes. Des fois, c'est des approches différentes. Donc, quels sont les débats? Ça dépend toujours du domaine. Et progrès, évidemment, ben, à quoi ça sert la recherche? Qu'est-ce que ça fait avancer? Quelle petite pierre dans le grand édifice on ajoute avec la recherche? Donc, il y a une petite audition sur laquelle il y a un jury qui fait une sélection. Bon, le charisme, la façon de s'exprimer, tout ça. Et puis, éventuellement, on arrive à une sélection qui permet d'écrire un scénario. Donc, moi, j'écris un peu l'introduction, la conclusion. L'étudiant écrit le contenu vraiment de ce qu'il veut mettre en exergue. Et puis, moi, je formule des questions pour articuler le tout. On prend le temps vraiment de peaufiner. Il y a notre comité aussi qui vient donner ses commentaires pour améliorer le tout. Il y a des gens de la faculté aussi qui peuvent participer. Bref, c'est un travail collectif qui nous mène au tournage. Donc, chacun tourne sa partie. Moi, je tourne les introductions et les articulations. L'étudiant ou l'étudiante tourne aussi son contenu. On prend le temps de s'assurer que tout le monde est très satisfait de ce qui est là. Donc, il n'y a pas de stress au tournage. On prend le temps de faire les choses correctement. Et par la suite, on tombe en version montage là, où on ajoute tout ce qui est... Bon, si vous avez vu les épisodes Néo, là, on rajoute un peu d'humour à travers des images et tout ça pour rendre ça convivial, là, de passer 10 minutes pour tourner autour de la recherche. Donc, voilà en gros le processus qui nous mène à la création de la capsule d'une dizaine de minutes. Puis moi, ben, je suis intéressé, Justine, de savoir un peu ton retour sur comment tu as vécu ces premières étapes-là. Justine n'a pas vu encore la version finale. On est elle avait une première version de montage. On arrive à la deuxième version sous peu, donc l'épisode sort sous peu. Alors, Justine, peut-être nous parle un peu de ton expérience qui t'a sorti peut-être un peu de ta zone de confort.
Ben, moi, j'ai trouvé ça très fluide, en fait, comme procédé. Puisque bah, tout simplement, j'ai eu le même processus, on va dire, pour la candidature, c'est écrire et puis ensuite se filmer. Et ce que j'ai vraiment apprécié, bah, c'était la partie justement où on s'est réunis avec toute l'équipe de l'Allier. Trouver un titre percutant, ça n'a pas été une mince affaire par rapport à ce que je pensais. Et ça a été très, très intéressant de voir tout le cheminement pour arriver à ce titre-là. Et on espère qu'il va vous plaire. Mais je pense que c'était vraiment le point le plus important finalement, d'essayer de voir si les idées étaient articulées de façon à ce que tout le monde comprenne la logique, quel que soit son niveau, et que les informations soient assez vulgarisées. Et après, sinon au niveau du tournage, bah, ça s'est très bien passé. On a passé une belle matinée avec Thomas. Et puis, je pense qu'à la fin, vous verrez qu'on était quand même un peu fatigués, mais c'était dans une très bonne ambiance.
Quelques points d'humour pour pas que ça paraisse.
Voilà.
Parce que en somme, comment ça se passe, c'est que nous...
Il y avait aussi quelque chose de particulier par rapport à...
Oui, oui.
Non, ben, je voulais juste mentionner que c'est sûr qu'on ajoute des images de l'étudiant dans son milieu de travail. Là, évidemment, on est tombé en période COVID, ce qui est fermer un peu l'accès au labo. Heureusement, Justine, dans son cas, elle avait déjà quelques images qui avaient été tournées dans le cadre d'un autre projet et les gens nous ont permis de les utiliser. Donc, ça nous a permis de meubler un peu visuellement le montage là, pour qu'on puisse savoir aussi sur le terrain ça ressemble à quoi. Là. Habituellement, avec chaque candidat, on réussit à aller prendre quelques images et c'est pas toujours possible dans le contexte. Donc, on doit s'adapter à chaque situation. Mais merci pour ces images fournies, Justine. Ça nous a été bien utile.
Avec plaisir.
Non, c'est ça ce que je mentionnais. C'est que avec chaque néo, c'est chacun et un scénario différent. L'équipe de l'Allier, vous l'avez mentionné, passe, c'est-à-dire vous deux passent au travers du scénario avec l'étudiant et l'étudiante, mais aussi il y a un comité qui participe, partie prenante à l'élaboration du scénario, puis qui participe aussi au montage. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce comité-là qui est en recrutement présentement. On recherche des étudiants et étudiantes à vouloir participer dans ce comité-là. Si jamais ça vous intéresse de voir des vidéos, de commenter sur des vidéos et de surtout participer au jury, on est à la recherche d'étudiants et étudiantes des cycles supérieurs pour participer à ça. Mais par rapport au comité, ce qui est intéressant, c'est que le comité va vraiment dire « OK, cette partie-là, je ne l'ai pas compris » ou « cette partie-là, ça n'a pas fait de sens, est-ce que c'est possible de l'améliorer? » Puis les commentaires vont vraiment bonifier la capsule ou vont vraiment dire ça, ce bout-là, il est fantastique. Celui-là, le montage pourrait être mieux fait. Donc, il y a vraiment un travail qui est collaboratif de la part de l'équipe de l'Allier. Puis, je pense que ça donne un plus au projet Néo dans son ensemble.
Absolument. Ben, tu as bien fait le pitch de vente pour le recrutement du comité Néo qui englobe aussi la chaire publique là, dans un autre cadre. Donc, déterminer quelques sujets et trouver des panélistes pour faire nos conférences. Donc, c'est un peu les deux volets qui sont sollicités pour le comité. Une réunion une fois par mois à peu près avec quelques trucs à visionner, à lire pour amener des commentaires. Donc, c'est quelque chose d'assez stimulant et très sympathique.
Oui, avec tout le monde qui fait partie de ce comité-là. Puis Justine, pour un étudiant étudiante qui hésite à participer à Néo, par exemple, je ne sais pas, un coloc à moi ou un collègue aimerait ça participer à Néo, mais il trouve que ça va prendre du temps. Ça serait quoi les avantages de participer à Néo? Puis les conseils que tu pourrais donner aux étudiants étudiantes qui hésitent à participer à Néo?
Alors déjà, j'aimerais rappeler que la vidéo qu'on envoie pour la candidature, ça ne doit pas être une vidéo avec montage, etc. Là, c'est, au final, je pense que ça m'a pris une heure d'écrire le texte et puis tout simplement de faire la vidéo. Donc, de ce que j'ai compris, il ne demande pas forcément voilà, quelque chose de très complexe. Hein, c'est surtout faire ressortir les éléments essentiels, donc aller droit au but. Et puis, les gros avantages, eh bien, c'est déjà de pouvoir s'exercer à la vulgarisation scientifique. Et ça, je pense que c'est très important pour tous les étudiants de savoir communiquer sur leurs résultats. Et le fait d'être justement entouré des bonnes personnes pour pouvoir le faire, ça, c'est une véritable chance parce que, bah, par exemple, pour le concours « Ma thèse en 180 secondes », on n'a pas forcément de mentorat aussi développé, concentré sur nous et sur notre projet. Donc, tous les conseils qui m'ont été donnés, je les ai pris et écoutés pour ma future participation pour ma thèse en 180 secondes. Donc, je vous remercie. et puis aussi, dans les demandes de bourse actuellement, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui permet de se démarquer peut-être. D'autres personnes que d'avoir un lien YouTube, c'est quand même un lien public qui explique nos recherches et ça montre en tout cas qu'on a envie de communiquer pas qu'avec les scientifiques mais avec tout le monde sur nos recherches. Donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même valorisé par les comités de bourse.
Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, tu mentionnes les subventions, tu mentionnes aussi avec probablement la COVID, tu n'as pas l'occasion peut-être de faire de colloques pour présenter tes recherches. Donc, ça, c'est un peu comme si tu participais à un colloque, mais version mineure, si on veut, version mini. Puis, ça donne aussi beaucoup plus de poids à une future candidature pour un poste de professeur aussi. Probablement que ça donne des chances pour...
Il n'y a pas de souci.
On ne sait jamais où l'avenir peut nous emmener.
Il faudrait compter le nombre d'anciens participants de Cogito qui sont devenus profs. On a une bonne moyenne au bâton.
Non, exactement. Mais c'est ça, certain que tout ce que les étudiants peuvent faire pour devenir meilleurs à la vulgarisation, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne aux études supérieures. Tout ce qu'on peut vous apprendre et vous donner comme outil, ça avance, ça fait de vous des meilleurs professionnels de la recherche et des meilleurs chercheurs. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur quoi que ce soit?
Non, pas vraiment. On a vraiment hâte de présenter l'épisode. Là. On a plein de surprises. Puis on travaille là-dessus, on travaille fort. Puis ça va être dans le fond le jeu. Dans le fond, les épisodes ils sortent à fréquence du dernier jeudi de chaque mois, sauf évidemment en décembre. On n'en sortira pas en plein milieu des vacances. Fait que ça va être jeudi le 20, ça va être le 29.
Le 29, oui.
Si je ne m'abuse. Puis on a très hâte, là. Puis ça a été quand même un bon défi parce que ça, originalement, était supposé être présenté dans la saison 1, mais là, avec la pandémie, il a fallu tout se réorganiser. Là, comme Serge disait, on a été chanceux de pouvoir compter sur les prises filmées par l'équipe qui avait filmé Justine lors d'une vidéo promotionnelle. C'est quoi cette vidéo-là, Justine?
C'est la vidéo promotionnelle de mon équipe de recherche par la faculté de pharmacie.
OK. Fait qu'on a, c'est ça, on a été chanceux de compter là-dessus. Il y a des belles images. Puis ben, Serge a été filmé parce que c'était dans le gros de la première vague. Là, fait qu'il a été filmé incognito avec son gars au sous-sol de la maison Marie-Serrois. Puis là, on s'est vu quasiment avec des sacs de plastique pour se transférer les cartes mémoire. Là, puis... Fait que, on a bien hâte de vous présenter ça. Puis ben, c'est ça, le comité aussi, comme tu disais, Marie-Ève, tantôt. Nous autres, Serge et moi, on met beaucoup d'emphase sur ce comité-là cette année parce que ben, c'est vraiment par l'entremise de ce comité-là que c'est un projet étudiant. C'est vraiment comme ça qu'on le personne. Parce que Serge et moi, on est employés de l'Allier, donc... Ça fait quelques années qu'on a terminé nos études, mais c'est pour vraiment aller chercher la vibe étudiante, les préoccupations étudiantes. Des fois, il y a des blagues qui sont un petit peu années 90-80. Fait que là, on a des étudiants qui nous ramènent ça, qui disent « Ouais, on comprend pas trop la référence. Le T-Rex de Jésus, je suis pas sûr. » Fait que...
On trahit notre âge.
Oui, c'est ça. C'est important pour nous de puis on écoute beaucoup ce que les gens dans le comité disent. Là, c'est vraiment le fun. Puis même qu'on leur fait des memes. Hein, Marie-Ève?
Oui! On a des memes à notre effigie.
Tous les gens dans le comité vont avoir un memes à leur effigie.
Tiens! Qu'est-ce qui se passe après? Après Néo? Comment se déroule la recherche? Qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport à ta recherche sur la bonne botte?
Alors, justement, les recherches que je parle dans la vidéo de vulgarisation du concours Néo, eh bien, ils ont permis, en fait, d'écrire un article scientifique qui a été soumis à un journal, donc scientifique. On a eu des corrections de la part de ce qu'on appelle des reviewers, donc ben, un peu comme le comité, finalement, du concours Néo. Ils sont allés vérifier la route et puis nous faire des critiques constructives sur comment améliorer l'article. Et actuellement, notre article a été renvoyé justement avec nos corrections. Donc, on attend avec impatience une réponse finale de la part du journal pour pouvoir publier finalement cet article. Mais il est d'ores et déjà disponible sur Internet avant correction. Donc, ça reste tout de même une très bonne nouvelle.
Félicitations.
Parce que, veux pas, après le concours Néo, il y a la partie où que tu vas donner tes résultats aussi dans un journal scientifique. Puis là, présentement, tu es rendu à cette étape-là de vulgariser dans des journaux scientifiques.
Alors, il n'est pas vulgarisé pour le coup. Là, c'est vraiment les résultats de recherche scientifiquement purs.
OK. Donc, il n'y a pas cette vulgarisation-là qu'on fait pour le concours Néo. C'est vraiment... On parle à des gens qui connaissent le dossier.
Exactement. C'est justement, les critiques sont faites par des scientifiques qui ont une connaissance spécifique du domaine dans lequel on publie. Donc, pour le coup, qui sont spécialisés dans le domaine du diabète, des modulations hormonales et de la chirurgie bariatrique. Donc, c'est ce qui fait en fait que quand un article scientifique est publié dans un journal, alors ça dépend après des journaux, mais la plupart ont justement ce peer review, eh bien, c'est ce qui fait qu'on peut croire en ce que les scientifiques nous disent. C'est que justement, c'est pas juste deux personnes qui ont dit « nous, on va publier que ça, c'est vrai ». C'est aussi la communauté scientifique qui s'est mise d'accord pour dire que la façon dont ils l'avaient prouvé était valide.
Oui, c'est très intéressant de connaître ces dessous-là d'être chercheur en 2020. Donc, je crois que ça conclut la partie avec Justine. Merci beaucoup, Justine, d'avoir été parmi nous pour cette partie de questions de savoir. On s'en va en pause musicale, puis on vous revient avec Serge et Thomas pour parler de la chaire publique un peu plus en détail.
Merci, Marie.
Justine, qu'est-ce qui se passe après Néo? Comment se déroule la recherche? Qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport à ta recherche sur la bonne botte?
Alors, justement, les recherches que je parle dans la vidéo de vulgarisation du concours Néo, eh bien, ils ont permis en fait d'écrire un article scientifique qui a été soumis à un journal donc scientifique. On a eu des corrections de la part de ce qu'on appelle des reviewers, donc ben, un peu comme le comité finalement du concours Néo. Ils sont allés vérifier la route et puis nous faire des critiques constructives sur comment améliorer l'article. Et actuellement, notre article a été renvoyé justement pour, avec nos corrections. Donc, on attend avec impatience une réponse finale de la part du journal pour pouvoir publier finalement cet article. Mais il est d'ores et déjà disponible sur Internet avant correction. Donc, ça reste tout de même une très bonne nouvelle.
Félicitations.
Parce que si tu veux pas, après le concours Néo, il y a la partie où que tu vas donner tes résultats aussi dans un journal scientifique. Puis là, présentement, tu es rendu à cette étape-là de le vulgariser dans des journaux scientifiques.
Alors, il n'est pas vulgarisé pour le coup. Là, c'est vraiment les résultats de recherche scientifiquement purs.
OK. Donc, il n'y a pas cette vulgarisation-là qu'on fait pour le concours Néo. C'est vraiment... On parle à des gens qui connaissent le dossier.
Exactement. C'est justement, les critiques sont faites par des scientifiques qui ont une connaissance spécifique du domaine dans lequel on publie. Donc, pour le coup, qui sont spécialisés dans le domaine du diabète, des modulations hormonales et de la chirurgie bariatrique. Donc, c'est ce qui fait en fait que quand un article scientifique est publié dans un journal, alors ça dépend après des journaux, mais la plupart ont justement ce peer review, eh bien, c'est ce qui fait qu'on peut croire en ce que les scientifiques nous disent. C'est que justement, c'est pas juste deux personnes qui ont dit « nous, on va publier que ça, c'est vrai ». C'est aussi la communauté scientifique qui s'est mise d'accord pour dire que la façon dont ils l'avaient prouvé était valide.
Mais c'est très intéressant de connaître ces dessous-là d'être chercheur en 2020. Puis on te souhaite bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Ici sur la table se trouve un vieux livre et une coupe renversée. Il faut s'en aller d'ici sans nos manteaux, nos lacets défaits et nos têtes enflées. Problème d'attention, de concentration arrive comme ils repartent. Nos larcelles s'émiettent et se perdent dans les jours qui font les semaines, qui font l'année de leurs 20 ans. Si elles ne peuvent pas avoir ce que j'ai eu, voir ce que j'ai vu, et pêche leur donne cache-cou. Skip dans la préface à la dérobée, personne va remarquer. Les bébés qui deviennent des enfants ou des fleurs tristes, avec pour se défendre qu'une épine brisée. Grandissent en même temps, que le périmètre de en arrive. L'alerte à la bombe, à l'école, c'est la récré. Les fleurs, on se cache pour apprendre à compter. Un jour sauront-ils même comment lire avec un peu de chance. Le sel de leurs larmes sur les joues en maquillage. S'ils ne peuvent pas avoir ce que j'ai eu, voir ce que j'ai vu, et ben je leur donne. Oh, 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 s'ils ne peuvent pas avoir ce que j'ai eu et croire à ce que moi j'ai cru, et ben je leur donne. Mon cache-cou.
La conférence, le stress, responsabilité partagée pour la chaire publique il y a 2 semaines?
Écoute, il y avait 200 personnes à peu près en ligne, donc c'est un beau succès. Beaucoup de gens qui sont passés par la suite aussi, les statistiques sont très bonnes. C'était la première fois qu'on faisait un événement uniquement virtuel à grand déploiement, là, c'est-à-dire avec toutes nos caméras. On avait déjà fait des entrevues en direct avec 1 ou 2 personnes, là, tu sais. Mais avec le gros kit, si on veut, de tournage, c'était la première fois. Et puis, il y a eu toutes sortes d'impératifs. On a dû s'adapter à quelques éléments, mais au final, je suis assez content de ce que ça a donné. Des petits pépins techniques ici et là, ça c'est normal, mais grosso modo, les panélistes étaient très généreux. On parlait du stress, évidemment. L'idée, c'était de ne pas laisser reposer la responsabilité du stress sur une seule personne qui l'a subi. Donc, il suffit de faire de la méditation, de mieux respirer, etc., etc., faire du yoga. Non, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait voir si on pouvait réfléchir la société, les espaces, la construction des immeubles, l'aménagement des parcs, les façons d'organiser le travail aussi, si on peut repenser tout ça pour essayer de diminuer le plus possible les sources de stress dans un contexte aujourd'hui qui est quand même assez riche, si on veut, en bombardement d'éléments stressants, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, on avait trois panélistes, André Potvin de la Faculté d'Architecture, d'Aménagement d'Architecture, Art et Design, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Il y avait Caroline Ménard du Centre Cerveau là, qui était plus sur les conséquences physiques du stress en fait et Manon Truchon qui était elle de la Faculté des sciences de l'administration je pense ou des sciences sociales, je ne me souviens plus laquelle, mais qui parlait vraiment de l'organisation du travail en fait. Donc, puis le tout était animé.
Accessoirement, on a parlé de souris avec Caroline.
Oui, Pilar, c'est vrai, on parlait de stress de souris, mais ses recherches portent beaucoup sur le comportement des souris. Et puis, effectivement, les souris vivent un stress et on est capable de le mesurer. Mesurer ce que ça... Parce qu'en fait, le métabolisme des souris, on se dit pourquoi il y a beaucoup de souris en recherche, mais le métabolisme des souris est quand même assez proche de l'être humain dans certains comportements et certains réflexes. Donc, on peut faire des parallèles intéressants entre l'un et l'autre. Là, pour quand on dénote des données scientifiques sur une souris, on est capable souvent de le reporter à l'être humain. Donc voilà, oui, c'était assez surprenant. Je ne pensais pas qu'on parlerait de souris à cette soirée-là, mais visiblement.
On a parlé de souris, on a parlé d'aménagement, on a parlé de toutes sortes de choses.
Absolument.
Il y avait aussi des questions du public qui nous venaient du chat, que j'ai donné un coup de main avec les personnes des communications de l'Université Laval. C'était très enrichissant de voir les questions du public. On a aussi eu des questions de personnes qui participaient à la conférence. Puis, c'est toujours disponible sur la page de la chaire publique. Si jamais vous l'avez manqué, vous pouvez la revoir. Si jamais vous avez manqué des interventions des panélistes, vous pouvez la revoir.
Absolument. Et comme d'habitude, on refait un petit montage là, en enlevant les éléments superflus, puis en peaufinant les petits trucs qui nous ont moins plu, qu'on va remettre sur YouTube, sur notre chaîne, là, qui est toujours très complète. Là, si vous voulez aller explorer la chaîne YouTube de la chaire publique Alliés et Néo, vous allez voir qu'il y a du stock là-dessus. Donc, il y en a pour tous les goûts.
180 conférences et plus.
Elles ne sont pas toutes là. Il en manque quelques-unes, mais quand même, il y en a... Je dirais qu'il y en a une centaine. Hein? Thomas, je pense qu'on n'est pas loin de ce nombre-là. Thomas fait l'inventaire assez régulièrement.
Puis on en a parlé un peu. Les changements pour la chaire publique en lien avec la pandémie, qu'est-ce que ce serait? On parle de cette conférence-là qui devait avoir lieu le 1er avril en version devant personne, devant des gens dans un auditorium.
Absolument.
Puis la chaire, qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie? Qu'est-ce que ça a eu comme impact?
Ben, je ne sais pas si Tom, tu veux.
Ben, comme on disait tantôt, c'est sûr qu'on a redéployé un peu les épisodes qu'on avait prévus dans la. On avait certains épisodes qu'on avait prévus dans la saison 1, finalement, en raison de comme toutes les contraintes au niveau du tournage, au niveau de la post-production, ça a été plus compliqué, ça a changé des fichiers, parce que Serge, moi, mine de rien, on n'habite pas dans la même ville. Oui, il fallait qu'on jongle avec cette conjoncture-là.
Deux zones rouges concomitantes.
Exact. Mais ça fait en sorte qu'on a une belle saison 2 bien pactée. Là. On en a profité pour prendre du recul, puis vraiment se monter un plan d'action avec nos objectifs pour Néo, mais aussi nos objectifs pour les différentes conférences. Fait qu'on est... On est bien content de ce qui s'en vient, là. N'est-ce pas, Serge?
Absolument. Puis c'est sûr que pour le tournage Néo, on va devoir garder les distances. On est à équipe réduite. On est deux techniciens pour une participante ou un participant. Puis quand on va devoir tourner sur le terrain, bien là, la prochaine qu'on prépare, c'est sur les grenouilles dans un marais. Donc, on va tourner en extérieur. Fait que ça nous donne un peu plus de liberté pour se déplacer. Mais c'est sûr que l'accès aux laboratoires ou à des lieux de recherche comme les bibliothèques, ça va être un peu plus compliqué dans certains cas. Là, va falloir faire preuve d'imagination un peu pour Néo, pour le tournage. Puis pour la chaire publique, jusqu'à la dernière minute, on espérait quand même avoir des gens. On espérait avoir le grand salon à jauge réduite. On espérait pouvoir avoir quelques personnes en présentiel, une cinquantaine, une centaine, plutôt que 500 comme jauge. Mais finalement, en retombant en zone rouge, bien évidemment, c'est retombé à zéro. Mais on était 7 dans la salle, là, tout le monde à distance, avec les masques d'usage et tout ça, les panélistes... Les panélistes qui évidemment, retiraient leur masque, mais étaient à 2 mètres de distance chacun l'un de l'autre. Donc, juste le temps de la... Eux autres étaient très heureux, en tout cas, là, de ce qu'ils m'ont dit, de sortir de leur sous-sol, de sortir de leur écran, justement, puis de dire « Ah, OK, on a un contact avec quelqu'un, même si ce n'est pas la foule qui galvanise des fois des discussions puis qui peut réagir. » Bien, quand même, il y avait ce contact-là avec d'autres profs qui ont un peu moins là, maintenant. Donc, ils ont beaucoup apprécié cette expérience-là aussi. Là. Mais on s'ajuste, on n'a pas le choix.
Ça fait partie des aléas de la COVID. Puis,
absolument.
Une belle réponse du public en ligne.
Là. Oui, au moins, il y a une belle réponse du public en ligne pour cette conférence-là. Ça nous donne des idées pour les prochaines. Je ne vous cacherai pas que la réponse était là pour une prochaine conférence en ligne. Donc, pour la suite, on verra. C'est ce qui met fin à la question de savoir. Merci beaucoup, Serge, Thomas et Justine, d'avoir été parmi nous. Pour les activités de l'année, il y a l'Assemblée générale extraordinaire le 4 novembre à 16h. On vous demande d'arriver 30 minutes d'avance pour vous identifier comme c'est virtuel. Et aussi, vous avez plein d'activités qui ont lieu dans les prochaines semaines pour l'Allier. Vous allez voir ça dans notre infolettre et sur notre page Facebook. Merci beaucoup, messieurs.